France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Cette semaine, c'est « De la nature des choses » de Lucrèce que nous lisons avec philosophie. Long poème composé de 6 chants et de quelques 7400 vers, écrit au 1er siècle avant notre ère par un épicurien convaincu, mais angoissé. Et aujourd'hui, place au Lucrèce médecin, des rêves aux épidémies, des sensations au sexe, comment soigner les corps et les âmes.
Le docteur Hübschmann a montré, grâce à de très nombreuses analyses psychologiques de tuberculeux, que les phases évolutives de la maladie corporelle coïncident régulièrement chez eux avec les époques où l'âme du malade est déchirée par un grave conflit intérieur, particulièrement un conflit d'ordre moral. Je suis d'assez près en ce moment un malade, homme de 40 ans, atteint d'une forme grave de paralysie, dont l'état s'améliore nettement en dépit de tous les pronostics défavorables parce que son moral reste résolument optimiste et qu'au milieu de ses souffrances et de son immobilité, son âme demeure sereine, calme et bienveillante. C'est que le corps et l'esprit ne sont pas deux objets différents logés dans un même sac. Ils forment une unité, la personne, dont le retentissement l'un sur l'autre est absolument constant, puisqu'il s'agit en fait de deux aspects d'une seule et même chose. La science l'a d'ailleurs très clairement prouvé. Lorsqu'on observe au rayon X l'estomac et l'intestin d'un chat en train de digérer, on s'aperçoit que les mouvements péristaltiques du tube digestif sont suspendus si l'animal a peur ou s'il se met en colère. Cela est d'autant plus vrai pour l'homme, qui est beaucoup plus sensible, dont le système nerveux est bien plus compliqué et le cerveau beaucoup plus développé.
Bonjour Julie Giovacchini.
Bonjour.
Vous êtes ingénieure de recherche au Centre Jean Pépin, au CNRS. Vous êtes l'autrice d'Épicure, paru aux éditions des Belles Lettres, et de L'Empirisme d'Épicure, disponible aux éditions Classique Garnier. C'est un livre issu de votre thèse. Toute cette semaine, nous parlons non pas d'Épicure, mais de Lucrèce, disciple d'Épicure. Que vous inspire cette archive de 1955 du professeur Maurice Thiesche? Je vous ai vu acquiescer, notamment à ce moment sur l'estomac des chats.
Oui, c'est très amusant cette archive parce que je pense que, alors si on laisse les anachronismes de vocabulaire de côté, un médecin grec serait tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça, c'est quelque chose dans l'Antiquité, la médecine grecque. On ne parle pas de l'âme d'un côté ou de l'esprit d'un côté, du corps de l'autre. On parle du composé psychosomatique et le traitement des maladies et l'examen des malades prend en compte la totalité de ce composé. Donc, c'est assez remarquable, en fait, cette survivance de cette lecture-là.
Mais ce n'est pas l'idée qu'on a aujourd'hui, en fait. Ce n'est pas le modèle médical qu'on a aujourd'hui, quand même, de cette unité entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire de se dire que quand même il y a des liens entre les deux. Alors, j'irai pas jusqu'à reprendre ce qui est dit dans l'archive de 1955 où il dit un patient qui a telle maladie, comme il a un bon moral, bah finalement tout va bien, son cancer semble ne pas avoir d'effet. On ne peut pas dire ça non plus, mais on voit bien quand même les connexions entre les deux.
Il y a quand même de grosses différences, en particulier la définition même de la maladie est pas du tout la même aujourd'hui. Là, en période antique, on parle d'un moment où parler de maladie, c'est compliqué, on parle de complexe, on parle de syndrome, on n'a pas des catégories très identifiées comme celles qu'on utilise aujourd'hui. Et la médecine contemporaine, heureusement pour nous d'ailleurs, s'appuie sur des fondements épistémiques, on va dire, qui sont un peu plus solides que la médecine ancienne. La médecine ancienne, c'est beaucoup une médecine d'attente. Où on compte les jours, on observe les développements de la maladie et la plupart du temps, on est assez impuissant à la soulager. On essaye de la comprendre, mais de là à la guérir, c'est pas forcément le rôle du médecin d'ailleurs dans l'Antiquité de guérir d'abord la maladie. C'est déjà de la prévoir.
Alors on a vraiment dans la nature des choses de Lucrèce cette idée d'un modèle médical, cette unité de l'âme et du corps. Est-ce qu'on peut dire pour autant présenter Lucrèce comme un médecin? Est-ce qu'on peut le lire comme ça, en fait, comme un traité médical?
Non, Lucrèce n'est pas un médecin, de même qu'Épicure n'est pas un médecin, ou alors il faut utiliser une définition très différente de médecin. Les épicuriens proposent effectivement une philosophie qui prétend être une médecine de l'âme. Ça, c'est très important. Mais une médecine de l'âme, au même sens que la plupart des philosophies antiques se présentent comme des médecines de l'âme. C'est-à-dire qu'il faut éloigner l'individu de comportements qui lui nuisent, mm-hmm. et en particulier qui nuisent à son âme, mm-hmm. pour l'amener vers la vie la plus digne, ou, dans le cas des doctrines hellénistiques, vers la vie la plus heureuse. En revanche, et ça c'était une grande partie de l'objet de mon travail de thèse, on peut considérer que pour produire cette médecine avec plein de guillemets de l'âme, les épicuriens vont s'inspirer de la médecine réelle en tant que technique telle qu'elle se pratique à leur époque ou un peu avant. Ils connaissent la littérature médicale et ils vont aller y chercher des concepts, des méthodes qu'ils vont ensuite appliquer à leur pratique philosophique. Donc, en ce sens-là, moi, je dirais plutôt que les épicuriens s'inspirent de la médecine pour proposer une partie de leur contenu philosophique.
Et pourquoi ça vous a intéressé ?
Pourquoi ça m'a intéressé ? Au départ, c'est un hasard. C'est-à-dire que j'ai trouvé une occurrence textuelle similaire entre un texte de la collection hippocratique et un texte d'Épicure.
C'est quoi la collection hippocratique ?
La collection hippocratique, c'est l'ensemble du corpus des textes qu'on attribue à l'école d'Hippocrate. Mmh. Alors, c'est une très mauvaise définition parce qu'en fait, la recherche de ces 50 dernières années a montré que la collection hippocratique contient des textes assez variés, en réalité, qui n'appartiennent pas tous au même courant médical, mais grosso modo, c'est une commodité d'appellation. Il y a plein de traités dans cette collection. Et il y en a un en particulier qui s'appelle le traité des préceptes, et dans lequel j'ai trouvé, au moment de ma thèse, une citation d'Épicure, mais mot à mot. Ça m'a beaucoup intriguée, donc j'ai creusé dans cette direction-là. Et j'ai trouvé qu'en fait, il y avait énormément de points de passage, d'intersection entre ces deux corpus, le corpus hippocratique et le corpus épicurien.
D'où l'idée quand même, malgré cette nuance que vous nous avez donnée, Julie Giovacchini, sur l'idée de faire de Lucrèce un médecin, la présence néanmoins de textes, de thèses, clairement médical, on va le voir, vous nous avez suggéré des textes dans ce long poème de la nature des choses sur les rêves, le sexe, les épidémies qui clairement en fait s'ancrent dans un courant médical. Est-ce qu'on doit se prémunir en même temps de faire de Lucrèce et de sa lecture un remède, non pas seulement aux maux de l'âme mais aussi du corps, c'est-à-dire vraiment de le voir, de le prendre vraiment au pied de la lettre, comme un penseur du corps mais même comme un guérisseur?
Alors, guérisseur, non, je ne pense pas, mais penseur du corps, certainement. Là, pour poser un petit peu les choses, l'épicurisme, c'est un matérialisme radical. De ce fait, quand on parle d'âme ou d'esprit et de corps, en fait, on parle de la même chose. Mmh. Pour les épicuriens, et ça c'est très bien expliqué dans le chant 3 du livre de Lucrèce, l'âme est un corps. C'est un corps à l'intérieur du corps, en quelque sorte. C'est même un corps complexe, qui est composé de différentes parties, avec des atomes de nature différente du reste du composé. Et de ce fait, tout ce qui va arriver au corps, d'un certain sens, arrive à l'âme, et réciproquement. Donc, les épicuriens sont nécessairement, pour leur pratique philosophique, des penseurs du corps, puisqu'il n'y a rien d'autre. Et tous les
du
phénomènes,
corps, qu'il soit donc de l'âme, de l'esprit ou mon bras, par exemple.
Votre bras, puisque c'est votre bras qu'il éprouve des sensations, qu'il fait des mouvements, c'est parce qu'il est relié à votre âme. Sinon, ce serait juste de la matière inerte. Donc, on peut parler éventuellement de corps animé ou de corps vivant. Le corps animé ou le corps vivant, c'est l'objet de la philosophie parce que c'est ce qui fait l'homme, en fait. Et ce corps animé, il est animé parce que l'intrication de l'âme et du corps fait que des mouvements sont possibles et surtout qu'il y a une communication de mouvements qui va rendre le corps en quelque sorte perméable à ce qui se passe à l'extérieur.
Alors, il est dit dans ce chant 3 que vous venez d'évoquer, Julie Giovacchini. Donc, ce chant 3, c'est vraiment là où est exposée donc cette thèse d'une âme matérielle composée d'atomes et de vide, alors que le chant 4 nous montrera plutôt l'application de cette thèse, donc par rapport aux rêves, par rapport aux épidémies. Alors, les épidémies, c'est dans le chant 6, je ne veux pas me tromper, mais en tout cas par rapport à la sexualité. Et dans ce chant 3, Lucrèce nous dit, parce qu'il faut bien qu'on ait ça en tête pour bien comprendre en fait la théorie de Lucrèce, stress et comment il s'inscrit dans l'épicurisme. Il dit « Maintenant, je dis que l'esprit et l'âme se tiennent conjoints et ne forment qu'une seule nature. Mais ce conseil que nous nommons esprit-intelligence en est comme le chef et règne sur tout le corps. Son siège est fixé au centre de la poitrine. C'est la région où tressaillent l'effroi et la peur, où la joie nous caresse, où règne donc l'esprit. L'autre partie de l'âme, éparse dans tout le corps, obéit, se mouvant par l'impulsion de l'esprit, lui résonne tout seul et se réjouit tout seul, sans que rien émeuve ni l'âme ni le corps. » Alors déjà, première interrogation pour moi, Julie Giovacchini, c'est pourquoi a-t-il besoin, Lucrèce, de distinguer l'esprit et l'âme ?
Alors, c'est beaucoup plus clair en latin, en fait. Parce que Lucrèce
va
utiliser...
Alors là, je ne pourrais pas vous suivre en latin, mais...
Lucrèce va utiliser deux mots différents. L'esprit, c'est l'animus. Et ce qu'on va traduire dans les textes par l'âme, c'est l'anima. Mmh. L'animus, comme le texte que vous venez de citer l'explique, c'est l'instance de conseil. Et c'est en réalité l'instance qui va créer la cohésion de l'ensemble. Et c'est l'instance la plus importante, finalement. Dans plusieurs textes, Lucrèce explique bien, on en reparlera probablement au moment du rêve, que la mort, c'est le moment où l'animus lui-même est pulvérisé. Tant que l'animus est là, le corps se tient, quel que soit son état de déliquescence, de maladie, de mutilation, etc.
Donc on pourrait par exemple penser, si je prends un exemple concret, Julie Giovacchini a par exemple à une fin de vie, où par exemple notre corps est fatigué, empêché, mais néanmoins notre esprit peut être tout à fait lucide.
Oui, mais dans le passage sur le rêve, on a exactement la même chose sur un mode un peu moins dramatique. Qu'est-ce que c'est que le rêve ? C'est ce qui arrive pendant le sommeil. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est que le sommeil ? C'est une forme d'anticipation de la mort. C'est-à-dire que c'est un moment où physiologiquement, pour Lucrèce, vous avez une séparation entre l'animus, qui se cache à l'intérieur du corps, et l'anima, qui va en partie sortir du corps ou en partie se disperser dans l'organisme. C'est-à-dire c'est le moment où cette cohésion, les épicuriens parlent souvent de sympathie, cette sympathie va s'atténuer.
Ok, se désagréger presque.
Voilà. Et l'anima, en tant qu'âme, elle est diffuse à l'intérieur de tout le corps et c'est elle qui va permettre la transmission, en particulier des sensations. C'est-à-dire que c'est elle qui va en quelque sorte faire l'intersection entre l'extérieur et l'intérieur, qui va amener les informations à l'animus et qui va également rendre la totalité du corps vivant sensible. À partir du moment où vous touchez quelque chose, pourquoi est-ce que vous éprouvez la sensation de toucher ? Parce que ce sont les atomes d'anima à l'intérieur de votre peau qui sont ébranlés par ce contact et qui vont diffuser l'information à l'intérieur de tout le corps.
Est-ce qu'on peut imaginer ou penser l'anima comme les nerfs, comme le sang, comme une sorte de principe vital fondé sur la circulation en fait ?
Alors, c'est un principe vital. Il y a aussi des nerfs et du sang. Il faut considérer que l'anima s'exerce à l'intérieur de ces parties-là du corps. Et c'est effectivement quelque chose qui, ce n'est pas, enfin, c'est quelque chose qui fonctionne comme un fluide. D'ailleurs, Lucrèce donne souvent des images de ce genre-là pour expliquer comment le corps est en quelque sorte la maison de l'âme. Il utilise par exemple l'image de la jarre qui est remplie de liquide et si le liquide s'échappe, il est répandu et on peut plus le faire rentrer en fait. Donc l'âme est contenue à l'intérieur du corps comme un liquide est contenu à l'intérieur de la jarre finalement.
Et deuxième chose étonnante dans ce texte, c'est que l'esprit soit localisé dans la poitrine. On pourrait se dire qu'il pourrait être dans la tête.
Alors effectivement, pour nous, c'est étonnant. C'est une thèse qui n'est pas complètement originale. Vous avez d'autres courants, que ce soit médicaux ou philosophiques, qui vont donner un siège à l'esprit qui n'est pas nécessairement la tête. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une instance centrale, en fait. Peu importe où elle est. Alors là, elle est localisée dans la poitrine parce que, comme le texte vous le dit, c'est considéré par Lucrèce comme le siège des émotions. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas imaginer que l'animus, c'est seulement les fonctions intellectuelles. Il parle de colère, il parle de peur. Et ces émotions-là, justement, on les rattache plutôt autour du cœur, finalement.
En fait, il y a quelque chose de très incarné. Est-ce que c'est ça qui est révolutionnaire, en fait, dans l'épicurisme et dans ce poème de Lucrèce? Non seulement de dire que l'âme et l'esprit sont faits d'atomes et de vide, donc on a une théorie matérialiste, mais aussi de dire qu'il n'y a pas d'abstraction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un intellect qui serait enfermé dans une sorte de tour et qui serait un je vais reprendre une image de Descartes, mais comme le capitaine dans son navire.
Alors, il y a de l'abstraction. Il y a de l'abstraction puisqu'il y a de la philosophie, puisqu'on peut utiliser cet intellect justement pour manipuler des notions abstraites. C'est un grand problème pour l'épicurisme d'ailleurs.
Ah oui,
comment fonctionne l'abstraction? Alors ça, c'est un grand problème pour l'épicurisme parce que cet intellect, il est matériel et il est nourri des sensations. Pour les épicuriens, on ne peut rien connaître qui ne vienne de l'expérience, d'une façon ou d'une autre. Mmh. Donc comment, à partir de l'expérience, on va construire des notions et des concepts abstraits? Ça, c'est une grande question, qui est assez difficile, et sur laquelle il s'explique finalement assez peu. Mais je dirais pas que c'est là qu'est vraiment la très grande originalité. Vous prenez quelqu'un comme Aristote, c'est quelqu'un qui est biologiste aussi, qui s'intéresse énormément aux fonctionnalités du vivant. Ce qui est vraiment original, je crois, c'est d'avoir essayé d'expliquer toutes ces fonctions vitales à partir d'une âme matérielle. C'est-à-dire, c'est le matérialisme en action. Dans le poème de Lucrèce, qui est vraiment d'une très grande originalité, parce que justement, ça l'oblige à des détours théoriques très très complexes. C'est très difficile d'être matérialiste en réalité.
Mais pourquoi c'est si difficile que ça? Où se loge la difficulté? Et tous les détours qu'il prend, est-ce que ce sont des sortes de pirouettes parce que sa thèse est intenable, ou au contraire, est-ce que c'est parce qu'elle est très complexe? Et plutôt dans le vrai, alors?
Alors, je ne m'aventurerai pas à dire si c'est une thèse vraie ou pas. Disons qu'il essaye de la rendre cohérente absolument. Mmh. C'est très complexe d'être matérialiste quand on s'intéresse au vivant, parce que justement, on a très très rapidement une tentation, quand on veut expliquer quelque chose comme le sommeil, quelque chose comme la respiration, etc., de faire intervenir quelque chose qui n'est pas du corps. Le principe vital, l'expliquer uniquement en termes matériels, c'est difficile, et de fait, quasiment personne d'autre que les épicuriens n'essaye de le faire. Si vous prenez la théorie de la sensation, par exemple, les épicuriens ont cette théorie très très originale de la sensation, qui considère que la sensation, c'est le monde extérieur qui vient vers nous, et qui vient matériellement vers nous. Donc ça, c'est expliqué en particulier dans le champ 4 du De Rerum Natura. Vous avez des pellicules atomiques qui se détachent des choses, qui s'appellent les simulacres. Et ces simulacres se détachent en série. C'est pas juste un simulacre, mais vous avez une série continue, ininterrompue de simulacres.
Donc par exemple, si je vous vois, Julie Giovacchini, c'est parce qu'il y a une série de simulacres qui se détachent de votre corps.
Exactement. Il faut qu'il y ait plusieurs choses. Il faut qu'il y ait la série de simulacres. Il faut qu'il n'y ait pas d'obstacle entre vous et moi. Parce que forcément, comme c'est des atomes, s'il y a un mur, par exemple, ben, ça va, les atomes, ils ne vont pas traverser le mur. Donc vous ne me verrez pas. Et il faut que vous ayez, vous, des organes sensoriels en bon état. C'est-à-dire, il faut que vous ayez un œil qui soit capable de réceptionner ces simulacres, et une anima qui les transmette, et un animus qui soit capable de les traiter. Mais les sensations, c'est d'abord ça, c'est le monde extérieur qui vient vers nous et qui nous traverse en quelque sorte. Vous réceptionnez des simulacres qui sont des pellicules atomiques, donc ils sont tout à fait matériels, et c'est ces pellicules atomiques-là qui créent le choc sensible et qui créent l'image que vous allez vous créer de moi-même, qui fait que vous me voyez. Et donc, il faut imaginer que ça, c'est notre seul rapport au monde, finalement. Donc, tout le reste doit être expliqué de cette façon-là, y compris la pensée abstraite, y compris quand vous faites des mathématiques, il faut imaginer que d'une façon ou d'une autre, vous manipulez mentalement des simulacres. D'où viennent ces simulacres? Comment peuvent-ils être des simulacres d'objets mathématiques qui n'existent pas dans la nature? C'est un grand mystère, finalement.
Les goûts et passions qui nous prennent et nous tiennent, les sujets sur lesquels nous sommes restés longtemps, dont l'étude exigea singulière attention, voilà ce qui nous apparaît le plus souvent en rêve. Les avocats plaident et confrontent les lois, les généraux guerroient et se lancent à l'attaque, les marins poursuivent leur lutte contre les vents. Moi, je fais cette œuvre, je cherche la nature des choses, toujours, et la révèle sur des papiers ancestraux. Ainsi des passions et des métiers divers, leurs vaines images tiennent l'esprit des hommes. Ceux qui, des jours entiers, furent au jeu du cirque, spectateurs assidus, nous le montrent souvent. Alors que leurs sens ont cessé de les observer, dans leur esprit, des voies demeurent ouvertes, par où peuvent affluer les mêmes simulacres. Ainsi, des jours durant, ces images les hantent, au point que, même éveillés, ils s'imaginent avoir devant les yeux de souples danseurs, entendre le chant éloquent et limpide des cithares, apercevoir les mêmes rangées de spectateurs et les décors variés et brillants de la scène. Telle est l'importance d'une passion, du plaisir et des occupations auxquelles s'adonnent non seulement les hommes, mais tous les animaux.
Extrait du quatrième chant de La nature des choses de Lucrèce, lu par Nicolas Berger. Je le rappelle pour les auditeurs et auditrices, ce quatrième chant est vraiment l'application de la théorie matérialiste et atomiste de l'âme et de l'esprit de Lucrèce. Pourquoi les rêves sont-ils le symptôme ou en tout cas le révélateur de cette théorie matérialiste atomiste de l'âme, Julie Giovacchini?
Alors, la théorie des rêves, elle est très intéressante parce qu'elle permet de nouer tous les fils, finalement. Déjà, pour que vous puissiez rêver, il faut que vous puissiez dormir, ça on l'a déjà dit. Donc, il faut qu'il y ait eu cette séparation. Alors, le sommeil vient d'un épuisement du corps, dit Lucrèce. Toute la journée, votre corps est traversé de mouvements, et en particulier, vous respirez. Et ça, respirer, c'est très fatigant pour le corps. Donc, au bout d'un moment, vous êtes usé, vous êtes fatigué, et vous vous endormez. Et à ce moment-là, au moment du sommeil, votre anima, une partie de votre anima sort de votre corps. Et alors là, il faut aller un peu à la pêche, au champ 3, on voit qu'elle reste à côté du corps et c'est pour ça que vous vous réveillez au bout d'un moment, c'est parce qu'elle va revenir. Parce
ça, si c'est un peu bizarre quand même.
C'est très bizarre, voilà, je suis d'accord.
C'est-à-dire qu'autant on peut être vraiment touché, frappé, se dire ça fonctionne quand on lit certains passages de La nature des choses de Lucrèce, autant là, bon, on frôle l'absurde.
C'est-à-dire qu'il faut arriver à expliquer à la fois pourquoi on s'endort et pourquoi on se réveille. Parce que si on se réveillait pas, ce serait quand même ennuyeux.
Mais il aurait pu juste dire qu'on était fatigué et que l'anima, donc l'âme, à défaut de se mettre à côté de nous, juste se reposait au fond de nos pieds. Je dis n'importe quoi.
Mais il a besoin d'être plus précis que cela parce que le rêve, c'est pas un objet anodin, en fait, dans l'imaginaire antique. Le rêve, c'est le moment où vous avez des visions. C'est le moment où vous pouvez avoir des visions prophétiques. Il y a toutes les hypothèses autour des rêves prémonitoires. Les anciens sont des gens assez superstitieux. Et donc, il ne faut jamais oublier, en lisant La nature des choses, qu'il y a ce programme-là aussi. À savoir, il faut démystifier les choses.
Il faut tout démontrer comme un phénomène naturel.
Exactement.
Que ce soit l'âme, les rêves ou les catastrophes, par exemple.
Et montrer qu'on n'a jamais besoin d'une instance surnaturelle pour expliquer ces phénomènes. Et l'âme, c'est une instance surnaturelle dans la perception éthérée, idéaliste des choses. Donc, il a besoin de cet édifice un petit peu bizarre. Alors, là, une partie de l'anima est sortie. À l'intérieur du corps, il reste l'animus qui est caché au fond.
Donc, l'esprit.
Et donc, voilà. Et donc, cet esprit, il est séparé de l'anima. Donc, comme il est séparé de l'anima, il n'a plus accès à sa conscience d'être, finalement. On n'est plus conscient quand on est endormi. Et il n'a plus accès aux sensations directes réelles. C'est pour ça que même si les images des rêves sont de même nature que les images qui nous arrivent pendant la veille, elles ne doivent pas être traitées de la même façon. Comme on n'a plus ce lien direct avec la sensation, on ne peut plus valider ces images. On ne peut plus les confirmer par une sensation réelle. Donc il ne faut pas y accorder foi. Donc il y a ça déjà qui est très très important. Et le rêve, c'est aussi ce qui va permettre finalement à Lucrèce, par la contraposée quasiment, d'expliquer ce qui se passe pendant la veille. Pendant la veille, on a des images qui nous arrivent, mais ça c'est un autre grand mystère. Il y a des images qui arrivent de partout, tout le temps, sans arrêt. Comment se fait-il qu'on ait l'esprit attentif à certaines choses et pas à d'autres ? Ça s'explique par les mécanismes de l'attention, justement, et par le fait que notre esprit va être habitué par ses pratiques, par son mode de vie, par ses goûts, par ce qui lui fait plaisir, à se focaliser sur certaines séries de simulacres et pas sur d'autres. Cette focalisation, elle entraîne une habituation, qui fait que quasiment, pendant qu'on dort, ça va continuer, le petit cinéma intérieur va continuer, mais quasiment sans qu'on soit là. Mmh. Et c'est tous les exemples qu'il donne ici, qui sont des exemples assez remarquables. Moi, j'aime beaucoup celui où il parle de lui, finalement. Pendant qu'il rêve, à quoi est-ce que Lucrèce rêve ? Lucrèce rêve qu'il écrit « La nature des choses ». Et qu'il est en train d'essayer justement de démonter les mécanismes de la nature. Pourquoi est-ce qu'il fait ce rêve-là et pas un autre ? Parce que son composé âme-corps est tellement habitué pendant la veille à faire cela que ce qui reste de son animus et de son anima séparés, déchirés, disloqués, peuvent continuer à en susciter les images.
Alors ça, c'est vraiment intéressant, mais il y a plein d'objections à faire à Lucrèce.
Tout à fait.
Donc, déjà, d'une part, et l'expérience le prouve, et pour un empiriste comme lui, on pourrait lui dire, on ne rêve pas que des choses que l'on a vues. C'est intéressant parce que vraiment, on a l'impression que se forme sous nos yeux une théorie de l'habitude qu'on va retrouver même chez Hume, c'est-à-dire une connaissance qui se fonde sur la répétition, ou même avant chez Maine de Biran, voilà, sur la manière dont les phénomènes se répètent. Mais enfin, il y a quand même un truc déjà de base, si je puis dire, c'est qu'on ne rêve pas forcément d'une situation récente, ni d'une situation qui s'est répétée. On peut avoir des surgissements d'un événement qui nous est arrivé dans la journée, mais il y a tellement d'autres figures qui nous apparaissent. Comment il explique ça, Lucrèce ? Est-ce qu'il affronte ce problème ?
Alors, il l'affronte pas de façon aussi directe, il l'affronte indirectement par sa théorie de la connaissance, justement. Parce que l'hypothèse des épicuriens, qui sont empiristes radicaux sur ce plan-là, c'est que on ne peut jamais imaginer quoi que ce soit qu'on n'ait pas vécu d'une façon ou d'une autre. Alors, on va le réagencer éventuellement, mais le matériau de base sur lequel notre esprit travaille provient d'images, de situations, d'expériences qui ont été vécues. C'est comme cela que, par exemple, Lucrèce explique dans le De Rerum Natura comment on peut se représenter des animaux fantastiques ou des monstres.
Oui, il parle de chimères.
Voilà, on n'a jamais croisé de chimères ou de licornes dans l'expérience réelle, mais c'est notre esprit un peu livré à lui-même qui va réagencer entre elles des morceaux d'images qu'il aura puisé une image de cheval, une image de corne, une image d'aile, etc. et qui va concevoir cette fiction. Donc la fiction est possible, mais la fiction s'enracine forcément sur des expériences passées.
Ben là, je suis convaincue. Parce que c'est vrai, par exemple, les fictions qu'on lit sont toujours fondées, c'est-à-dire que quand on imagine un monstre, ce monstre va toujours être fondé sur ce qu'on imagine être la norme qu'on se fait d'un visage, par exemple. Mais il y a d'autres objections quand même à faire à Lucrèce, et vous avez commencé à le souligner, c'est toute sensation, enfin, toute connaissance est d'abord fondée, en fait, sur une origine extérieure et donc sur une forme de passivité de l'être humain. Et d'ailleurs, à la fin, je trouve que c'est représentatif, ce vers où il dit, quand il dit, ça donne non seulement les hommes, mais tous les animaux. C'est-à-dire qu'il y a une continuité de passivité. Nous n'agissons pas en vue de quelque chose, mais nous sommes seulement frappés.
Alors, il y a plein de choses à dire sur ce dernier vers, et effectivement, c'est assez remarquable, cette continuité, mais qu'on peut tracer dans l'ensemble du poème, dans les 6 chants, entre l'homme et l'animal.
Oui, c'est un poème du vivant.
Poème du vivant, et la nature épicurienne n'est pas une nature hiérarchisée. Elle n'est pas axiologique. On n'est pas du tout dans l'image d'une échelle des vivants où l'homme serait tout en haut et serait radicalement différent de l'animal. Parce que justement, une fois que les épicuriens ont montré que l'âme, c'est du corps à l'intérieur du corps, finalement, il n'y a pas de différence de nature entre l'âme humaine et l'âme du chien ou l'âme du cheval ou l'âme du ver de terre. C'est toujours la fonction qui vous anime, elle va être plus ou moins élaborée, plus ou moins subtile, mais c'est toujours la même chose. Alors, de ce fait, les épicuriens répondraient à votre objection que la passivité est justement le garant de l'authenticité. C'est parce qu'on est passif dans le processus de réception des sensations qu'on peut leur accorder du crédit, parce qu'on ne les déforme pas.
Il n'y a pas de biais.
La sensation, au moment où on l'éprouve, est vraie. À partir du moment où on s'attarde juste sur cette sensation-là, sur le donné sensible. L'erreur provient du moment où l'esprit commence à manipuler cette sensation, le jugement intervient et on essaye d'interpréter la sensation. C'est là que l'erreur peut arriver. Si on prend au début de ce champ 4, vous avez un long développement où Lucrèce réfute les théories sceptiques et en particulier les théories qui cherchent à mettre en doute la fiabilité des sensations. Et la réponse de Lucrèce, finalement, elle est très simple. Elle est que la sensation, au moment où elle nous arrive, est vraie. C'est le jugement qui processe dessus, finalement, qui peut l'infecter et la transformer en erreur. Mais même si l'exemple qu'il donne, c'est la tour qu'on voit ronde de loin et carrée de près, la sensation est toujours vraie. C'est-à-dire qu'il est vrai que je vois la tour ronde de loin. Et cette sensation-là n'est pas une sensation fausse. L'erreur arrive au moment où j'infère, à partir de cette sensation, la réelle nature de la tour.
Et que je vais dire, par exemple, qu'elle est ronde
alors qu'elle est carrée.
D'accord. Donc, cette théorie des sensations, telle qu'elle est présentée, nous dit que toute sensation est fiable, qu'aucune sensation n'est trompeuse. Donc, on est vraiment loin, quand même, presque de ce qui domine en termes de connaissances. C'est-à-dire que c'est presque quelque chose qu'on apprend assez vite dans les corpus philosophiques, que les sens sont trompeurs.
Oui, ça, c'est une très grande originalité. C'est même le lieu où les épicuriens se démarquent de Démocrite, qui est quand même le père fondateur de l'atomisme dont s'inspire Épicure, puisqu'on a un fragment de Démocrite qui explique bien que les sensations sont des conventions. Épicure va franchir le Rubicon et va dire non, les sensations sont vraies. Les sensations sont vraies et c'est la seule chose dont on dispose, c'est notre seul rapport au monde. Donc tout ce qu'on va concevoir intellectuellement procède des sensations et est vrai dans la mesure où il se rapproche le plus possible de la sensation.
Julie Giovacchini, nous venons de parler des rêves, nous allons parler d'un autre phénomène psychocorporel, la sexualité.
Des maris, à leur tour, dont les femmes fécondes, n'avaient pu concevoir, rencontrèrent enfin la nature assortie, capable d'assurer à leur vieillesse le réconfort d'enfants. Tant il importe que les semences s'adaptent aux semences pour se mêler fertilement, l'épaisse à la fluide et la fluide à l'épaisse. En cela, le régime importe également. Certains aliments concentrent la semence du corps, d'autres, au contraire, l'exténuent et la décomposent. Mais la manière dont s'obtient la douce volupté importe aussi beaucoup. On croit communément qu'en la position des bêtes, des quadrupèdes, il est plus facile de féconder l'épouse, parce que, poitrine baissée, reins soulevés, ainsi dans la place se logent les semences. Nul besoin pour une épouse de mouvements lascifs. Car une femme entrave et combat la grossesse lorsque, jouant des fesses, joyeuse, elle stimule la jouissance de l'homme et la fait jaillir à flot, tandis qu'elle se démène à s'en désosser la poitrine. Elle dévie le soc et le jette hors du droit sillon, empêchant le sperme de se loger au but. Pour s'agiter ainsi, les prostituées ont leur raison, ne pas être souvent grosses, angésine alourdie, et rendre Vénus même aux hommes plus dispose. Nos épouses n'ont donc nul besoin de cela.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Extrait du quatrième chant de La nature des choses de Lucrèce, ce passage sur la sexualité, mais plus précisément ce que vous avez appelé, Julie Giovacchini, ou je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle comme ça parmi les épicuriens, leur texte sur la double semence. Alors, qu'est-ce que ça a d'original, cette approche de la sexualité, en termes finalement d'accouplement et de fécondation?
Alors, donc là, on est à la fin du chant 4. Et Lucrèce a entamé un très long développement sur la sexualité et l'amour. Alors là, on va laisser l'amour un petit peu de côté pour le moment. Sur la sexualité, il s'agit de montrer... Il est dans un terrain un petit peu dangereux. Parce qu'il s'agit à la fois de montrer que la sexualité est une fonction vitale comme les autres. Mmh. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce développement arrive juste après le développement sur le rêve, par l'intermédiaire du rêve érotique. On fait des rêves, on fait aussi des rêves érotiques, et à ce moment-là, le texte bascule et on passe dans ce développement sur la sexualité. Pourquoi est-ce qu'il passe par le rêve ? D'abord pour montrer que la sexualité, c'est une fonction vitale exactement comme les autres, il n'y a pas besoin de la traiter différemment. Et puis, parce que c'est pour montrer que le rêve érotique, il fonctionne grâce à des images. Donc, dans la sexualité, on est toujours dans une fonction qui fait intervenir des images.
Donc, on est toujours dans la théorie à la fois des sensations, puis la théorie des images.
La théorie des images est au sens où, si une image, pendant mon sommeil, est capable de susciter de l'excitation sexuelle, il ne faut pas accorder plus d'importance que cela à l'excitation sexuelle que je peux éprouver en étant éveillée. Et là, ça va ouvrir le boulevard sur la diatribe contre l'amour passionnel et cette illusion néfaste, toxique pour l'homme qui l'oblige à se fixer sur un seul individu qui serait celui qui lui procurerait le plus grand plaisir, le plus grand bonheur, etc. Non, la sexualité éveillée, c'est la même chose que la sexualité endormie. Ce sont des images qui stimule le corps d'une certaine façon.
Alors juste, je vous suis tout de suite là-dessus, Julie Giovacchini, sur la différence quand même entre l'amour et la sexualité, parce que il y a quand même ce passage-là juste avant l'extrait sur la sexualité qu'on vient d'entendre, où effectivement Lucrèce nous dit « Éviter de tomber dans les raies de l'amour est moins difficile que de s'en dégager et de briser les nœuds si puissants de Vénus. Pourtant, même pris entravé, tu peux encore échapper au danger si tu n'as de toi-même fait obstacle en négligeant d'emblée tous les défauts physiques ou moraux de celle que tu courtises et veux. » Et là, moi j'ai adoré ce passage, Lucrèce nous dit « Malheureux qui ne voient l'excès de leur misère, noire et les couleurs miel, sale et puante, naturelle, yeux glauques, c'est palace, nerveuse et sèche, une gazelle, la naine paraît une des grâces à croquer, la géante, une déesse pleine de majesté. » Continue comme ça pendant plusieurs lignes, ce qui veut quand même dire que là, pour le coup, les sens peuvent nous tromper dans l'amour. C'est-à-dire que la femme la plus belle ou la plus moche, ou peu importe, est transformée par l'amour.
Ce ne sont pas les sens qui nous trompent. Là encore, c'est le jugement. Cette diatribe-là, on la retrouve aussi chez Ovid dans L'Art d'aimer. C'est le trope de l'inversion des qualités. Mais justement, ce que dit Lucrèce ici, c'est si je m'arrête à la sensation pure, je la vois comme elle est. Et je ne peux pas m'illusionner. Ce qui va me faire tomber dans les de l'amour, c'est toute la mécanique de l'illusion qui fait intervenir non plus seulement les sensations, mais toutes les projections et les fantasmes que je vais construire moi-même pour idéaliser l'objet aimé.
D'où l'importance pour la sexualité, si je comprends bien, de la séparer de l'amour finalement.
Oui. Ça n'est pas du tout la même chose, en fait. L'amour, c'est une illusion créée de toutes pièces par un esprit malade. C'est vraiment... Alors là, pour le coup, si on revient à l'histoire médicale, c'est vraiment une maladie, telle que c'est décrit dans cette fin du champ 4. En revanche, la sexualité, c'est une fonction vitale du corps qui est nécessaire. Nécessaire d'abord parce qu'elle soulage une souffrance. Lucrèce décrit la tension sexuelle qui précède l'éjaculation comme une souffrance. Donc il faut soulager cette souffrance. Et faut la soulager de la façon la plus efficace possible. Et c'est aussi nécessaire pour la fécondité. Et la fécondité, ça c'est pareil, c'est à l'échelle de la nature tout entière, quelque chose de normal, de sain. Ici, on est dans un passage, ce passage sur la double semence, dans lequel justement Lucrèce va articuler la question du plaisir et la question de la fécondité. Il va l'articuler en partant, là encore, de l'expérience et d'une expérience qu'il présente comme une évidence, mais qui n'est pas du tout en réalité une évidence dans la littérature de l'époque, qui est l'évidence du plaisir féminin. Et Lucrèce va utiliser cette hypothèse qui remonte à Démocrite, probablement, et qu'on retrouve aussi formulée dans la collection hippocratique, dans en particulier traité sur la génération, cette hypothèse de la double semence, c'est-à-dire l'idée que pour qu'un rapport sexuel soit fécond, il faut que l'homme et la femme émettent une semence. Et c'est le mélange de ces deux semences qui va créer un embryon, finalement. De ce fait, le plaisir féminin, non seulement est présenté comme une réalité, mais aussi présenté comme quelque chose de nécessaire pour qu'il y ait fécondité du rapport sexuel.
C'est là où on retrouve la théorie des plaisirs, qui est typiquement épicurienne, et qu'on peut parfois perdre de vue en lisant Lucrèce, parce que Lucrèce est beaucoup plus catastrophiste, beaucoup plus parfois angoissée, et donc semble parfois nous dire, bon, la seule possibilité que l'on ait, c'est de comprendre la nature des choses pour moins souffrir, mais néanmoins, le plaisir reste un but, parfois juste un horizon. Alors que là, avec la sexualité, on a l'impression que voilà, il y a une théorie des plaisirs, il faut encadrer la sexualité, il faut la séparer de l'amour, il faut distinguer différentes catégories de plaisirs sexuels, et là on aura une bonne maîtrise de ces plaisirs.
Tout à fait, et moi j'aime bien lire cette fin du chant 4 en miroir avec le début du chant 1 et l'éloge de Vénus. Parce qu'il me semble que ces parties-là du poème se répondent. Au début du chant 1, on a cette merveilleuse image de Vénus qui gouverne la nature, finalement, qui prodigue à tous ses bienfaits. Et au début de cette partie sur la sexualité dans le chant 4, on a une phrase qui est très importante qui dit « Ceci, c'est notre Vénus. » Et ceci, ça désigne très exactement l'éjaculation. C'est-à-dire que la Vénus du chant 1...
Je l'avais pas lu comme ça, vous voyez.
En fait, c'est vraiment explicite dans le texte latin. Le déterminant qui est utilisé renvoie vraiment à ce qui vient d'être décrit. Donc, la Vénus du champ 1, qui est la déesse mère qui gouverne toute la nature, finalement, quel va être le moment où on va en faire l'expérience la plus directe ? C'est le moment du rapport sexuel. Donc, on est très, très, très loin d'une lecture parfois un peu puritaine qui a été faite dans les siècles précédents de cette fin de chant 4 qui a gêné pas mal de lecteurs. Hein. On comprend ça assez bien parce que c'est assez cru. Une lecture puritaine, ils disaient, oui, bon, les épicuriens, on sait qu'ils se méfient de la sexualité. Et donc, finalement, Lucrèce est en train de mettre en garde les jeunes gens contre les pièges de Vénus. C'est pas exactement ça. Vénus n'est pas un piège. Ou en tout cas, toutes les Vénus ne sont pas des pièges. La Vénus qu'on construit de façon factice et sur laquelle on projette des illusions, c'est un piège. Vénus ramenée au pur plaisir de la sexualité et à la fécondité qui s'ensuit quand le plaisir est réciproque, celle-là est tout à fait bénéfique et doit être suivie comme un modèle.
Alors, il y a d'autres passages crus. On va en entendre un maintenant dans une toute autre ambiance, il faut le dire, puisque nous sommes dans une ambiance d'épidémie de peste à Athènes.
Dans les fleuves glacés, certains plongeaient leurs membres brûlants de fièvre et se jetaient nus dans les flots. Beaucoup tombèrent, la tête la première, au fond des puits, alors qu'ils se penchaient, la bouche ouverte jusqu'à l'eau. La soif dévorante, inextinguible, qui submergeait les corps, faisait d'un large flot à peine quelques gouttes. Nul répit dans le mal, leur corps gisait épuisé. La médecine était muselée par sa terreur muette, tandis qu'il ne cessait de rouler des yeux hagards, enflammés de maladie et privés de sommeil. Beaucoup d'autres signes de mort s'offraient à ce moment. L'esprit troublé, plongé dans la fiction et la crainte, le sourcil farouche, le regard acerbe et furieux, les oreilles affectées, elles aussi, bourdonnantes, la respiration précipitée ou profonde et ralentie. Une sueur luisante baignant le cou, des crachats ténus, minuscules, couleur de safran et salé, qu'une toux rauque arrachait avec peine au gosier. Les nerfs des mains se contractaient, le corps tremblait, des pieds, peu à peu, le froid sans hésiter montait, et, quand approchait le moment suprême, on leur voyait les narines pincées, l'extrémité du nez amincie, les yeux caves. Les tempes creuses, la peau froide et dure, la bouche en rictus, le front tendu et gonflé. Peu après, les membres se raidissaient dans la mort. Au 8e retour de l'éclatant soleil, ou à la 9e aurore, ils rendaient la vie.
Et la description continue encore sur plusieurs vers. Nous sommes dans le sixième chant de La nature des choses de Lucrèce, lu par Nicolas Berger. Et cette description, non pas de l'épidémie en tant que telle, mais vraiment des effets physiques sur le visage d'un patient atteint de la peste. Pourquoi l'épidémie, comme le rêve ou la sexualité, doit être pris, analysé comme un phénomène naturel pour Lucrèce, Julie Giovacchini?
Alors là, on est dans le chant 6. Et dans le chant 6, il s'agit de s'attaquer à ce que dans la culture antique, on appelle les météoras, les phénomènes remarquables, soit parce qu'ils sont très rares, soit parce qu'ils sont très effrayants, inexplicables, la foudre, la pierre magnétique, les fontaines miraculeuses, des choses comme ça, l'arc-en-ciel. Et ce chant 6 se termine sur une très longue évocation de la peste historique d'Athènes, qui est présentée comme une catastrophe à laquelle on donne des explications. Il y a des germes méphitiques qui sont transmis dans l'atmosphère et qui, à un moment, viennent infecter une population donnée. Alors, épidémie, attention, dans l'Antiquité, ça n'a pas exactement le sens qu'on lui prête aujourd'hui.
C'est pas comme le Covid.
C'est pas comme le Covid. On appelle épidémie un ensemble de maladies qui frappent à un endroit précis. C'est-à-dire que l'épidémie, c'est localisé géographiquement. C'est le tableau clinique, on va dire, d'une région à un moment donné. Et ici, il se trouve qu'on vous décrit la façon dont les Athéniens sont massivement morts à un moment, au début de la guerre du Péloponnèse. Et de fait, il y a beaucoup de proximité entre ce texte-là et, d'une part, le récit de Thucydide, qui, dans la guerre du Péloponnèse, décrit lui aussi la peste d'Athènes, et des textes hippocratiques qui décrivent un certain nombre de cas cliniques qui ressemblent beaucoup au cas clinique qui est ici décrit. Et en particulier, ce que vous avez à la fin de ce texte, la description du misage du mourant, ça, c'est une description topique dans la littérature médicale qu'on appelle le faciès hippocratique. Le faciès hippocratique, c'est le visage au moment de la mort. C'est très important dans la médecine hippocratique parce que c'est une médecine dont l'élément le plus important est le pronostic. Ce qu'on attend du médecin grec, c'est pas qu'il guérisse le malade. La plupart du temps, il peut pas le faire. Ce qu'on attend du médecin grec, c'est qu'il soit capable de prédire l'évolution de la maladie.
C'est pour ça qu'on parle de pronostic et pas de diagnostic.
Exactement. Et décrire l'évolution de la maladie, c'est savoir d'abord identifier si le malade a une chance de survivre ou pas, et combien de temps ça va durer, et quels vont être les jours critiques. Les jours où quelque chose va se passer qui va soit montrer qu'on va vers la mort, soit montrer qu'on va vers la guérison. Le faciès hippocratique, quand vous en êtes à ce stade-là, c'est mal engagé pour vous. Ça veut dire que vous êtes vraiment au seuil de la mort. Et tous les éléments que reprend ici Lucrèce sont des éléments qu'on trouve mot à mot dans le traité hippocratique qui s'appelle le pronostic, justement.
Ce qui veut dire aussi que l'on a affaire, là encore, qu'en termes à des sensations en termes d'extériorité, c'est-à-dire qu'on constate, on observe, on prend des notes, c'est-à-dire qu'on va remarquer aussi des schémas, des répétitions, des régularités, ce qui va nous permettre aussi de constituer un corpus de connaissances épistémologiques, par exemple, j'imagine, sur voilà, telle maladie se caractérise par tel symptôme, mais on va rester effectivement dans quelque chose de l'ordre de du constat, de la connaissance, peut-être même de la littérature et d'un remède qui serait de l'ordre moral plutôt effectivement que de la médecine. On revient au début de notre conversation, Julie Giovacchini, où là, le médecin ne va rien ouvrir, ne va rien donner, ne va pas interférer sur ces phénomènes qu'il observe de manière extérieure.
Alors effectivement, dans la pratique médicale antique, l'observation clinique, c'est très important. C'est peut-être aussi un autre point de rencontre crucial entre l'empirisme des épicuriens et la technique médicale elle-même. Le médecin grec, il passe son temps au chevet du malade à observer absolument tous les signes et à les observer de la façon la plus précise et la plus détaillée possible. Ici, dans le texte d'ailleurs, on vous dit que la médecine était muselée par sa terreur muette. Le médecin, il peut faire ce recueil des observations cliniques, mais il peut pas aller vraiment au-delà. Donc pourquoi est-ce que là, c'est le philosophe, en quelque sorte, qui prend le relais? Parce que là où la médecine est impuissante, cette description clinique, justement, de la peste d'Athènes, elle peut au contraire être intégrée dans un programme philosophique d'atténuation de la peur de la mort, de destruction de la peur de la mort et d'apprentissage de la vie heureuse.
Mais ce qui est important, intéressant aussi, c'est qu'on voit, Julie Giovacchini, presque les prémices de ce qu'on peut appeler aujourd'hui d'une médecine narrative. C'est-à-dire qu'il serait fondé vraiment sur des récits de la part du patient, mais aussi du médecin, mais aussi avec la maladie comme une actrice, un acteur à part entière de l'histoire, pour presque reprendre la main sur la maladie. Est-ce qu'on peut déjà voir ça? Est-ce qu'il y a déjà une thérapeutique, à défaut de la médecine, mais dans la philosophie, dans le fait de reprendre un récit, en fait?
Peut-être, je ne m'étais pas posé la question de cette façon-là. Alors, du côté philosophique, probablement, ça fonctionnerait assez bien, parce que, effectivement, ce champ 6, il est un peu déroutant. Il est un peu déroutant, ça s'arrête sur cette description vraiment catastrophique. On a l'impression que l'humanité part en déréliction complète, qu'il n'y a aucun espoir. Et de fait, le récit, il a en réalité une fonction cathartique. Il s'agit d'affronter la mort dans son détail le plus horrible, le plus désespérant, le plus noir, pour se réapproprier cette mort, pour pouvoir encore plus vaillamment clamer qu'elle n'est rien pour nous, qu'elle n'est pas à craindre, et qu'elle ne correspond qu'à une dissolution du composé, et après tout s'arrête. Et finalement, ce qui est problématique dans la peste d'Athènes, c'est pas tant la mort que le comportement complètement erratique de la population. Après, la grosse différence avec la médecine narrative, c'est que si on sort là du cadre philosophique, dans la médecine antique, cette observation clinique, elle est réservée aux médecins. Le malade n'agit pas. On n'a pas de récits de malades qui font vraiment la description de leur maladie. Par contre, on a les carnets cliniques des médecins, ça tout un ensemble de traités hippocratiques qui s'appellent les épidémies et qui sont des descriptions de cas vraiment très semblables à ce qu'on a dans ce texte-là. Mais on n'a pas ce côté réappropriation par le malade de sa maladie.
Et une toute dernière question en un mot, Julie Giovacchini, est-ce que la lecture de ces lignes vous fait du bien? Enfin, est-ce que d'une certaine manière, vous démystifiez vous aussi la mort en lisant de la nature des choses de Lucrèce?
Alors, je ne suis pas sûre que la lecture de ces lignes-là, prises hors contexte, puisse faire du bien à qui que ce soit, même si poétiquement, c'est un morceau de bravoure assez extraordinaire. En revanche, il faut voir la nature des choses. C'est un monde, c'est un poème monde, et c'est un voyage. Et il faut avoir fait tout le voyage, je pense, pour éprouver le bienfait philosophique à la lecture du champ 6. C'est parce qu'on a traversé le champ 1, le champ 2, le champ 3, qu'on a décortiqué tous les éléments de la nature, qu'on peut éprouver le soulagement philosophique à ce moment.
Once I loved such a shattering physician, quite the best looking doctor in the state. He looked after my physical condition, and his bedside manner was great. When I gaze up and see him there above me, looking less like a doctor than a Turk, I was tempted to whisper, "Do you love me? Or do you merely love your work?" He said my bronchial tubes were entrancing. My epiglottis filled him with glee. He simply loved my larynx and went wild about my pharynx, but he never said he loved me. He said my epidermis was darling and found my blood as blue as could be. He went through wild ecstatics when I showed him my lymphatics, but he never said he loved me. And though no doubt it was not very smart of me, I kept on a rack in my soul to figure out why he loved every part of me and yet not me as a whole. With my esophagus, he was ravished, enthusiastic to a degree. He said 'twas just enormous, my appendix vermiformis, but he never said he loved me. He never said he loved me.
Merci beaucoup à vous, Julie Giovacchini, de nous avoir exposé la dimension médicale de la nature des choses de Lucrèce de Vaux. On peut lire L'Empirisme d'Épicure, disponible en Classique Garnier, Épicure, paru aux éditions des Belles Lettres. Et pour lire de la nature de Lucrèce, vous pouvez vous tourner vers les éditions GF dans la traduction de José Cani Turpin. Et maintenant, c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment de Frédéric Worms.
Comment parvenir au fondamental ? Lorsque quelque chose de très important pour nous, et que nous disons d'ailleurs fondamental pour nos vies, quand quelque chose donc de fondamental pour nos vies s'écroule, nous sommes surpris et nous recherchons justement comment ce qui nous semble fondé sur un principe absolu, sur quelque chose sans quoi nous ne pouvons pas vivre, sur quelque chose peut-être d'éternel, a pu s'écrouler. Nous recherchons le fondamental. Ainsi, si quelqu'un met en cause la science aujourd'hui, nous avons envie de répondre, ben non, la science, ça n'est pas une fiction humaine. La science est fondée sur la vérité, sur le fait que 2 et 2 font 4, sur les lois des mathématiques, sur un certain nombre de principes qui permettent de prédire ce qui va se passer dans l'univers et qui ont quelque chose que les humains n'ont pas construit de manière arbitraire, comme une simple fondation d'une maison ou d'une histoire, d'une ville dans l'histoire, mais un fondement indépendant des humains auxquels ceux-ci peuvent et doivent se rapporter et qu'ils ne peuvent pas critiquer sans tout fragiliser. Quand nous disons qu'il y a quelque chose de fondamental, ce n'est jamais seulement pour nous, c'est en quelque sorte en soi. C'est ce sur quoi repose la vérité du monde, peut-être de manière éternelle et logique ou théorique, plus profondément, donc encore plus profondément que toutes les fondations créées par les humains dans leur histoire. Et il en va de même, évidemment, dans la morale et dans la politique. Nous parlons des fondations d'une cité, par exemple Rome ou par exemple la République française en 1789, mais elle a voulu, cette fondation, s'appuyer sur un fondement plus radical, sur les droits de l'homme, sur la liberté, l'égalité et la fraternité, qui semblent en effet être des fondements transcendants par rapport à la fondation contingente, historique, datée, fragile de la République française, qui a pu d'ailleurs parfois trahir ses propres fondements, dans la mesure où elle aurait versé dans la terreur. Nous recherchons donc le fondamental, et c'est le rôle aussi de la philosophie. La philosophie, par exemple, chez Kant, comme démarche réflexive, cherche à trouver dans la raison humaine ce qui est nécessaire, les cadres nécessaires de toute connaissance ou les principes nécessaires de toute morale, ce sans quoi nous ne pouvons pas penser l'expérience humaine. Il est vrai que nous pouvons agir par devoir, dit Kant, nous pouvons même sacrifier notre vie. Il y a donc quelque chose de fondamental là-dedans. Ce sont les fondements de la métaphysique des mœurs. Ils s'imposent à nous au-delà de la variation des mœurs dans l'histoire humaine. Il y a quelque chose d'éternel en eux. Mais cette recherche du fondamental a en quelque sorte quelque chose à voir avec la fragilité des fondations. Nous ne pouvons pas oublier que la recherche du fondamental résulte de l'ébranlement des fondations dans l'histoire. Le fondamental est une déduction logique qui ne trouve pas sa réalisation pratique dans l'histoire. Il se peut qu'il y ait des principes fondamentaux de la science, et il faut pourtant toujours y revenir, et les scientifiques eux-mêmes ne cessent d'y revenir pour réfuter ou pour confirmer tel ou tel nouveau théorème, telle ou telle nouvelle découverte. Le fondamental est donc une vérité logique qu'il faut constamment reprendre pour son application dans l'histoire. Qu'est-ce qui est conforme à la liberté quand la liberté se complique, quand l'égalité et la liberté en viennent à se contredire ? C'est pourquoi le fondamental est ce à quoi nous devons venir et revenir pour renforcer des fondations toujours fragiles et pour s'orienter vers des refondations toujours nécessaires.
Merci Frédéric et merci à toute l'équipe Carla Michel, Anna Fulpin, Axel Dubois, Shaima Gibouard, Armance Bourquin et Nassim El-Kabli, à la réalisation Nicolas Berger, à la prise de son Grégory Wallon. Pour retrouver toutes les émissions d'Avec Philosophie mais aussi les chroniques, les pourquoi du comment, rendez-vous sur le site et sur l'application Radio France.